Seigneur, nous te louons pour cette conférence. C'est un vrai privilège de pouvoir être ici. Il a fallu patienter pour pouvoir avoir ce festin avec vous tous. Et je dois dire que c'est une vraie jouissance d'être ici en unité avec les frères et sœurs, en jouissant du fleuve, de l'eau de la vie. Il n'y a rien de pareil sur toute la terre. Nous avons déjà reçu tant de richesses pendant les premières 4 réunions et le Seigneur, il a encore davantage à nous donner. Et il y a encore quelques points qu'on voudrait montrer de Apocalypse 22, l'arbre et le fleuve d'eau de la vie qui sort du trône. Ce qui m'a parlé, c'est chaque fois que le Seigneur agit, c'est par une intention, par un plan, un dessein qu'il a formé. Et ce fleuve coule avec un but, une intention. Il ne coule pas n'importe où, sans but, mais le Seigneur nous se révèle à nous-mêmes comme la vie, parce qu'il a un projet, il a un plan sur la terre qu'il voudrait exécuter. Il a besoin de nous à cet effet. C'est très bien de voir quelle est la destination de ce fleuve, de voir déjà d'où il provient et où il va. Le titre de cette réunion, c'est le service sacerdotal. Vous avez certainement remarqué que c'est basé sur le verset 3 qui dit que il y aura le trône de Dieu et de l'agneau et ses serviteurs le serviront. Donc, on voit la vie, ce fleuve limpide. Ensuite, le Seigneur enchaîne en disant que ses serviteurs le serviront. Quelle est ma réaction face à ça? Il s'agit quand même du dernier livre de la Bible. Le Seigneur, il dit que ses serviteurs le serviront. Donc, c'est notre destinée pendant l'éternité. Dans la Nouvelle Jérusalem, ses serviteurs le serviront. La dernière fois, on a entendu que nous allons régner avec le Seigneur. Et certains frères et sœurs ont dit, bon, mais au fond, c'est parce que c'est pas vraiment mon but, même régner, ça me dit pas. Ou peut-être certains disent aussi, c'est pas non plus mon but de servir. Moi, je viens de me réjouir. Mon fardeau ce soir, c'est de montrer que servir, en fait, c'est rien d'autre. C'est pas une deuxième chose que le Seigneur nous montre à travers ces versets. Ses serviteurs le serviront, c'est lié à sa vie. Tout dépend, en fait, tout dépend de sa vie. Et ça fait partie de la vie du Seigneur. Pas quelque chose de fabriqué par nous-mêmes, quelque chose de réalisé par notre propre force et énergie. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Comment pouvons-nous le servir en tant que ses serviteurs, faire ce service sacerdotal avec le fleuve et l'arbre de vie? Et pourquoi la parole dit service sacerdotal? Dans Apocalypse 1, nous avons déjà vu ce que le Seigneur a accompli et des versets similaires qu'on a vu la dernière fois, verset 5 ou 4. Tout provient du trône, la grâce, les sept esprits, le témoin fidèle, celui qui nous aime et qu'on nous a rachetés de nos péchés avec son sang. Le Seigneur nous a aimés, nous a rachetés avec son propre sang. Il a versé son sang pour libérer le chemin. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Lorsque le Seigneur nous a rachetés par son sang, il a fait de nous des sacrificateurs par la même occasion. Être des sacrificateurs, ce n'est pas quelque chose qui viendra s'ajouter dans ta vie chrétienne plus tard. Ce n'est pas un module à part que tu peux obtenir en plus. Lorsque le Seigneur nous a sauvés, qu'il nous a rachetés, il a fait de nous en même temps des sacrificateurs et des rois. C'est tout inclus. C'est une seule étape. Nous avons chanté le chant concernant les Hébreux, le peuple qu'il a fait sortir d'Égypte. Moïse a dit à Pharaon qu'il voulait appeler un peuple pour lui-même, pour le servir à lui. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ça montre qu'on n'était pas des sacrificateurs. Et auparavant, dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était réservé à une seule tribu et nous, on n'en fait pas partie. De toute façon, moi, je n'en fais pas partie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui fait partie de la tribu de Lévi. Le Seigneur nous a fait de nous un royaume. Donc, pas besoin de penser que c'est quelque chose que nous avons dans notre nature. C'est le Seigneur qui a fait de nous des sacrificateurs. Nous pouvons également lire Apocalypse 5, versets 9 et 10. Pour nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire, Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc c'est lui qui a racheté et qui a fait de nous. Il a fait de nous des sacrificateurs. C'est si bon. C'est le Seigneur qui c'est chercher un peuple de sacrificateurs. Il n'a pas appelé des individus. Nous allons quand même voir l'aspect individuel, mais il y aura une autre réunion sur le sacerdoce. Ce soir, nous allons voir que nous sommes tous des sacrificateurs individuellement. Chacun a été racheté, libéré pour venir en avant. Le Seigneur a ouvert, il a libéré le chemin, comme on voit dans Hébreux 4. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. C'est un sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses Et présentons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, par sa mort, le Seigneur est là, tout accompli, de sorte que nous puissions venir avec toute assurance. Après la chute, ce chemin vers le trône, au trône, l'accès a été barré. Et nous avons vu que le Seigneur a quand même entrepris un grand effort pour de nous ouvrir de nouveau, nous donner accès. Alors de la mort sur la croix, le voile a été déchiré. C'est le Père qui a ce désir que nous nous approchions. Donc, il a enlevé tous les obstacles, à savoir le péché, la chair, le vieil homme et même la vieille alliance. Il les a éliminés, les ordonnances, de sorte que nous puissions avancer au trône de la grâce. Hier soir, nous avons lu le verset que le Seigneur nous a donné la repentance pour la vie. Chaque fois que nous tournons, ça veut dire que nous nous repentons pour obtenir la vie. Louez le Seigneur pour cet accès que nous avons dans un seul esprit. Nous avons accès au Père. Et cet accès, Jean 14, 6, cet accès, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est notre chemin. Jean 14, 6, un verset que nous pouvons lire ensemble. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons lui dire, Seigneur, tu es mon chemin au Père. Je viens au Père par toi, parce que tu as ôté tous les obstacles et moi je peux appliquer ton sang, donc il n'y a plus rien qui nous empêche de nous approcher. Le chemin est irréversiblement dégagé. Personne ne pourra de nouveau barrer ce chemin. Le chemin au Père. Et le Père, il aime les êtres humains qui s'approchent, qui viennent à lui. Un autre verset merveilleux se trouve dans Luc, chapitre 1. Qui montre que le Seigneur, il a tout fait, tout accompli pour que nous puissions exercer ce service de sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, le sacrificateur, il avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints une seule fois par an. Mais dans la nouvelle alliance, le chemin est libre pour chacun qui est sauvé, chacun qui a accepté l'œuvre du Seigneur. Zacharie, dans Luc chapitre 1, a déjà annoncé cela, verset 71. Lisons ce passage afin de donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de nos péchés grâce aux entrailles de sa miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Je suis trop loin. Afin de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte tous les jours de notre vie. Le Seigneur nous a donné, il a préparé quelque chose pour nous et nous pouvons le prendre. Sauvés de la main de nos ennemis. Le Seigneur, il a vaincu tous les ennemis. Il les a tous éliminés. Et maintenant, nous pouvons les servir sans crainte. Peut-être certains d'entre vous ont un peu peur en entendant parler de service sacerdotal. Qu'est-ce que je devrais affronter? Mais le Seigneur, il voudrait que nous le servions sans crainte. Il n'a plus de crainte. Le Seigneur, il a éliminé la crainte. Donc, nous pouvons marcher devant lui tous les jours de notre vie. Comment c'est possible? C'est possible parce que c'est une vie. Nous avons reçu une vie pendant tout au long de notre vie humaine. Et nous marchons devant le Seigneur, comme dans Apocalypse, ils se tiennent devant le trône, les serviteurs de Dieu. Dans Apocalypse 22:3, nous lisons que le trône y sera et les serviteurs le serviront. Nous avançons au trône de la grâce, au trône de l'agneau de Dieu, pour le servir devant son trône. Être devant son trône, c'est un privilège. De pouvoir se tenir devant lui en tant qu'être humain. Pour faire quoi, justement, devant son trône? Que va-t-on faire? En fait, c'est pas grand chose que tu pourras faire devant le roi sur le trône. Moi, je veillerai à ne pas le lâcher, le regarder en permanence pour observer ce qu'il fait, ce qu'il dit. Parfois, nous pensons que nous sommes les serviteurs du Seigneur et nous nous activons et le Seigneur nous observe de son trône. Et parfois, il nous demande, mais écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est précieux. La parole qui dit, ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. Un serviteur, c'est une personne qui, tout d'abord, regarde la face du Seigneur. Donc, c'est cette partie. Et très peu de distractions. Être devant le trône, je pense que tu ne vas pas regarder à gauche et à droite, tu vas uniquement regarder le Seigneur. Et même, il dit, regarderont sa face. Regardez ses yeux, sa bouche. Parce que nous vivons de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous nous tenons devant le trône pour regarder ses yeux, sa bouche. C'est ce que nous sommes en train de faire ces jours-ci. Nous avons déjà regardé le Seigneur et contemplé sa gloire. Seigneur Jésus, le regarder, le contempler, voir sa gloire. 2 Corinthiens 3 exprime ça. Les versets 7 à 11 et verset 11, que chaque fois que le cœur se tourne vers le Seigneur, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est un si grand plaisir de regarder le Seigneur, de contempler la gloire du Seigneur. Le visage découvert et reflété sa gloire. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui contemple le Seigneur, qui contemple sa beauté, comme le psalmiste qui veut rester, demeurer dans la maison et contempler la beauté du Seigneur dans l'église, près de l'arbre de vie et du fleuve, de l'eau de la vie. Le Seigneur nous rafraîchit. Pendant la communion, nous avons pensé au verset dans Acte 3. Acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, la face du Seigneur, c'est rafraîchissant. C'est merveilleux d'être si familier avec sa vie. Contempler quelqu'un, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est seulement avec une personne familière avec qui tu peux faire ça. Un sacrificateur est dans une relation vivante avec le Dieu vivant. Tout au long de nos jours, le sacerdoce n'est pas focalisé en premier lieu sur les choses à faire, les tâches à remplir. Le début, c'est être familier avec le Seigneur, sa parole, connaître sa vie, également savoir distinguer ce qui n'est pas la vie. Nous contemplons la parole de la vie. Nous avons contemplé la parole de la vie, comme dit Jean dans son épître. C'est merveilleux de se tenir devant le Seigneur en commun et de le refléter tout en étant transformé. Ça fait un effet si nous le contemplons. Il y a un effet. Ça nous change. Il y a l'exemple d'un homme qui s'est regardé lui-même et il est parti déçu. Mais une fois que nous avons contemplé la face du Seigneur, il y aura une réaction en nous. C'est précieux de sentir cette réaction en nous. C'est l'Esprit qui va réagir. Nous contemplons la gloire du Seigneur, nous la reflétons et nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. Lorsque je contemple le Seigneur, l'Esprit va réagir en transformant certaines choses, les choses qui ont besoin d'être transformées dans ma vie. L'Esprit, il retourne et il transforme. La réaction de l'Esprit, ça agit en nous. Je contemple le Seigneur, l'Esprit va réagir en disant Amen. Ou il va nous donner de la lumière, l'Esprit va confirmer, il y aura une réaction en nous. Et cette réaction de l'Esprit, c'est souvent comme s'il disait Amen. Amen. Et moi, je dis, Seigneur, tu es merveilleux, je t'ai contemplé, j'ai également contemplé ton plan, le fleuve, l'arbre de vie, comme nous le faisons ces jours-ci, et cela nous impressionne. Et tout ce que nous pouvons dire au final, c'est, fleuve, coule à travers de moi. Seigneur, je m'ouvre. À ce fleuve, je voudrais saisir la réalité de tout cela. Ça ne me suffit pas de contempler cela. Je voudrais être au milieu, dedans. Et cette réaction en nous vient de l'Esprit. Cette consécration a son origine dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui parle, qui réagit et qui dit
stimmt. Stell dich doch zur Verfügung. Den Strom fließen zu lassen.
Qui nous conseille, ouvre-toi.
Lob den Herrn, gib dich.
Rends-toi disponible.
Jetzt hast du ihn angeschaut und
pour permettre au fleuve de couler. Consacre-toi au Seigneur. Tu l'as contemplé, tu l'as vu comment il est. N'est-ce pas si bien de lui appartenir? Est-ce que j'ai pas envie de consacrer tout mon cœur entier à lui? Je sais pas ce qui va se passer après, mais peu importe. Rappelons-nous le moment où nous avons été sauvés. Là, nous n'avons pas saisi beaucoup, mais nous avons eu ce sentiment intérieur. Seigneur, je voudrais t'appartenir. Je suis disponible pour toi. Fais avec moi tout ce que tu veux. Et nous pouvons toujours à nouveau nous rendre disponibles au Seigneur en disant, Seigneur, impressionne-moi. Je suis un serviteur. Je contemple ta face. Impressionne-moi. Permets-moi de te voir tel que tu es. Cette consécration, il en est question également dans Romains 12, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est une exhortation. Exhortation par les compassions de Dieu.
Paul sagt, dass ihr eure Leiber gebt. Zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig.
Das ist ein Satz, der uns Paul, il nous exhorte à offrir nos corps. Ce verset ne devrait pas nous effrayer. Si tu as...
Da redet ein Mensch zu mir, aber in Wahrheit ist es das Erbarmen Gottes.
Tu entends une telle voix qui te dit, consacre-toi, c'est l'Esprit. C'est l'exhortation du Seigneur d'offrir notre corps. Ce sacrifice ou ce service, il commence par la consécration. Ce culte raisonnable, en fait, ça veut dire un service sacerdotal. Et à cet effet, nous consacrons nos corps, nous nous consacrons au Seigneur. 2 Corinthiens 8, là il est question des frères en Macédoine et Paul, il décrit comment ils se sont consacrés pour les besoins d'une autre église. Et dans le verset 5, il dit, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. La consécration, c'est toujours en premier lieu au Seigneur, pas aux hommes. C'est une relation dans la vie. Tu contemples le Seigneur et nous nous consacrons à lui. C'est merveilleux, ça nous libère de la main de tous nos ennemis. Nous nous consacrons à lui, au fleuve de vie. Nous nous consacrons à lui pour nous approcher. Et pourquoi nous nous consacrons à lui? C'est parce que nous savons que c'est lui la source. Lui, il est la source de chaque service. Dans Apocalypse 22, il est deux fois question du trône. Dans le verset 1, on voit le fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et dans le verset 3, on voit les serviteurs devant le trône, c'est-à-dire au même étroit au même endroit où le fleuve sort. Donc, ils sont à la source. Un sacrificateur près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est pas une bonne source. C'est même dangereux, un sacrificateur près de l'arbre de la connaissance. Les serviteurs se tiennent devant le trône de Dieu, à la source du trône. Nous buvons à la source. Gloire à Dieu. Si on suit le cours du fleuve, on va finalement tomber sur la source, en amont, en effet. Et c'est si bien de venir à la source. Et à la source, comme il a été dit ce matin, l'eau est particulièrement limpide, comme du cristal. Il y a pas mal de saleté, de particules de saleté dans le fleuve. On a vu ce matin comment le serpent a versé une substance obscure, un additif dans le fleuve. Mais l'eau la plus limpide, c'est toujours près de la source. Lorsqu'on fait une randonnée en montagne, on voit beaucoup de ruisseaux, parfois on a soif pendant la randonnée. Et on dit normalement qu'il faut veiller qu'il n'y a pas de pâturage de vaches plus haut que la source. On ne sait pas, mais il peut y avoir des substances nocives. Donc, vaut mieux pas en boire. Vaut mieux d'aller à la source et prendre ce fleuve limpide qui sort du trône. La source, c'est l'esprit. La source de notre service, c'est l'esprit de vie. Nous ne servons pas par la force ou par des armées puissantes. C'est par l'esprit. L'esprit coule et l'esprit, c'est tout ce qu'il nous faut pour notre service dans la maison du Seigneur. La vie, contempler la vie, saisir la vie, c'est ce qu'il faut toujours. D'une part, il faut prendre, puiser de cette vie, nous réjouir de la vie, mais d'autre part, nous avons également une responsabilité de saisir. Ça ne vient pas tout seul. Je dois venir, m'approcher, venir au Seigneur, prendre, saisir la vie du Seigneur. C'est un merveilleux exercice que chaque croyant peut pratiquer. Seigneur, je te prends, je prends ta vie, je te saisis tel que tu es. Je saisis ta vie, une vie capable de servir. Nous venons à la source pour prendre la vie du Seigneur. Merveilleux, nous avons une vie qui a déjà accompli le service sacerdotal. Dans Hébreux 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Nous avons. Le souverain sacrificateur, il vit en nous. Donc nous l'avons dans notre esprit.
Ein solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln.
Qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été tressé par le Seigneur et non par un homme. Nous avons ce sacrificateur et c'est très bien d'observer comment lui il sert et quelle vie il possède. Et nous avons vraiment reçu cette vie. Une vie capable de servir. C'est pas suffisant à mon avis. Ça décrit une capacité uniquement. Assurer que nous avons réjoui du fait que nous avons une vie qui a également une persévérance, une vie qui est une vie de service, c'est-à-dire une vie avec cette caractéristique permanente de servir. La vie du Seigneur est une vie de service. C'est pas seulement une vie capable de servir, mais c'est une vie qui effectue ce service en permanence, jour et nuit. Le souverain sacrificateur est prêt à nous servir. Cette vision me protège de penser uniquement à des activités. Il faut faire ceci si tu veux être un sacrificateur ou cela. Ça provient des capacités. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas un tel. Une vie, avoir reçu une vie de service qui produit des activités, quand même, c'est quelque chose de merveilleux. Un sacrificateur, c'est pas un métier. Vous, les jeunes, vous n'avez pas encore un métier. Vous êtes encore étudiant, écolier, et vous dites peut-être comment je vais faire pour être aussi un sacrificateur, en plus de mon école que j'ai pas encore terminée. Être sacrificateur, c'est pas un métier, une profession, c'est une vie. Et nous avons reçu cette vie. Peu importe si tu as reçu le Seigneur à l'âge de 12 ans, 18 ans ou à l'âge de 80 ans. Nous avons reçu une vie de sacrificateur. C'est le même Christ. C'est pas un sacrificateur loin de nous et un autre qui est en nous. C'est la même vie, la vie que le Seigneur a menée sur terre et la vie par laquelle le Seigneur nourrit, chérit l'Église. La même vie se trouve en moi, une vie de service. Et toucher cette vie, ça nous motive de dire, Seigneur, je m'ouvre à ta vie. C'est une vie qui nous qualifie aussi, qui nous rend capables. Nous avons peut-être pensé, vaut mieux pas dire ça, 2 Corinthiens 3.
Amen. Hey Jesus.
2 Corinthiens 3, 4 à 6.
Amen. Solches Vertrauen.
Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. Mais l'Esprit donne la vie ou vivifie. Gloire à Dieu. Nous tous, nous ne sommes pas qualifiés. Aucun d'entre nous n'est qualifié pour être un ministre, mais il nous a rendus capables. Ça vient de Dieu. Il nous a rendus capables. Ce n'est pas notre capacité. Ça vient au contraire de Dieu. Un ministère exécuté par l'Esprit, provenant de l'Esprit en nous. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. L'Esprit nous vivifie nous-mêmes et également les autres. Galates 2, 19 à 20.
Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt.
C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre par Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a un moment à Zurich, nous avons remplacé cette vie par toutes sortes de verbes. Par exemple, je prie, mais ce n'est plus moi qui prie, mais c'est Christ qui prie en moi. Louez le Seigneur. Je sers, mais ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui sert en moi. Et nous pouvons tout appliquer, tout ce que le Seigneur est, tout ce qu'il a accompli, toute sa vie, nous pouvons l'insérer ici. Louez le Seigneur pour ce chemin. Nous ne vivons plus nous-mêmes, peu importe si nous sommes qualifiés ou non. C'est Christ qui vit en moi. Et ce ministère est agréable au Père. Nous appréhendons cette vie de plus en plus. Dans 1 Timothée 6, Paul s'adresse à un jeune frère qui connaît déjà la vie, c'est Timothée. Donc il est un frère, il a déjà reçu la vie. Nous avons tous déjà reçu la vie. 1 Timothée 6, 12, il lui dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est ce que nous pouvons faire maintes fois, saisis la vie éternelle. Tu as reçu la vie du Seigneur, mais nous saisissons en permanence. Comme Paul l'a dit, je ne l'ai pas encore saisi, mais je cours. Des sacrificateurs n'arrêtent pas de saisir. Toujours saisir quelque chose de frais, un fruit de l'arbre de la vie. C'est ça la foi. Nous saisissons cette vie. Hier soir, nous avons dit, la foi, ça veut dire prendre. Seigneur, toi, tu es comme ça. Tu es ce serviteur, ce ministre. Je me consacre à toi. Je te saisis. C'est comme ça que nous exerçons notre foi. Ce matin, nous avons entendu que dans la parole, nous saisissons la réalité. C'est la parole de la vie que je saisis, que j'applique pour moi, personnellement. Et la foi va nous amener à servir. Nous nous identifions avec le Seigneur. En le saisissant, nous nous identifions avec lui et ça nous libère.
Vorbereitung hatte ich so einen Moment.
Pendant que je me suis préparée chez nous, à la maison, j'étais en train de lire. Et puis, quelqu'un a commencé à mettre les couverts. Et puis, le Seigneur m'a dit, moi, j'ai une vie de service. Et puis, c'est le moment de décider. Est-ce que je saisis cela ou est-ce que je laisse aux autres le soin de servir? Parfois, c'est une décision rapide. Parfois, tu as le temps de prendre une décision. Parfois, tu n'as même pas le temps. Si tu n'es pas vite, les couverts sont déjà mis. C'est pareil dans la maison du Seigneur. Parfois, le Seigneur nous parle, nous adresse une parole, j'ai une vie de service et puis il faut saisir cela rapidement. Amen. Seigneur, je suis un avec toi. Et puis tu te lèves, tu participes au service. Merveilleux de servir ensemble parce que le Seigneur t'a parlé. C'est merveilleux d'entendre la voix du Seigneur. Moi, j'aime servir. Le Seigneur, il aime servir les êtres humains, comme nous, nous l'expérimentons tous les jours. Comme le Seigneur sert l'Église pendant la conférence, du début à la fin, il nous nourrit, nous chérit pendant toute la conférence. Il veut aussi nous gagner. Ou par moment, un frère vient pour nous encourager de servir. Je me rappelle ma première conférence de jeunes. L'après-midi, tu ne penses pas à tout et quelqu'un s'approche, un frère me dit, tu vois ce frère là-bas? Vas-y pour partager un peu avec lui. Et je crois que je connaissais juste son nom. Bon, la question qui se posait à moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire, bon, j'ai pas envie. J'étais bien à l'ombre sous l'arbre. Alors tu y vas et en cours de route, tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire au frère? Qu'est-ce qu'il lui faut? C'est une bonne occasion de saisir le Seigneur. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit à ce frère, mais je rappelle le résultat. Je sais que le résultat, c'était une communion qui a continué pendant des années. Justement parce qu'un frère m'a demandé d'y aller pour lui parler, pour partager avec lui. Ou parfois le Seigneur nous dit, prie pour ce frère, prie pour cette sœur. Dimanche dernier, nous avons lu que l'Esprit intercède pour les saints. Comme cela correspond à Dieu, nous avons dit que nous avons un esprit de prière, un esprit qui prie pour les saints. Et dès que je m'ouvre à l'esprit, le résultat, c'est aussi une prière pour les frères et sœurs. Nous servons avec la vie, avec ce que nous avons reçu nous-mêmes du Seigneur. Je pense que nous allons approfondir sur cela dans les réunions à venir. Nous allons servir dans l'abondance. Le Seigneur, il nous ordonne pas seulement « fais ce que je te dis », c'est plutôt en communion avec le Seigneur. Il y a différents types de services dans le Nouveau Testament. Il y a un type de service, c'est comme un esclave, le serviteur qui n'a pas de droit, qui obéit les commandes de son maître. Et puis il y a le service des sacrificateurs qui provient de la communion avec le Seigneur, de la plénitude de sa vie. Le ministère que nous avons reçu, le ministère décrit dans le livre d'Apocalypse, provient de la plénitude. Mais il y a aussi l'autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Mais ce que le Seigneur décrit dans Apocalypse, c'est le ministère sortant de la vie, de la plénitude, de la communion avec le Dieu vivant. Ce n'est pas une œuvre morte. Dans Hébreux 9, 9-14, le Seigneur, il dit, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, notre service sacerdotal n'est pas une œuvre morte. Tout cela provient de la vie du Seigneur, ça vient de l'abondance de sa vie. Et pour conclure, je voudrais revenir au verset 4 de l'Apocalypse 22. C'est quand même très important. Le trône de Dieu de l'agneau, Israël, ses serviteurs le serviront et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Louez le Seigneur. Son nom sera sur leur front. Nous voyons sa face et son nom sera sur notre front. Le Seigneur cherche des personnes sur lesquelles il pourra écrire son nom, comme il dit à l'église à Philadelphie, qu'il donnera au vainqueur son nouveau nom. Le Seigneur, il cherche des personnes sur lesquelles il pourra écrire son nom, parce qu'ils le servent. Avoir son nom sur le front, ça veut dire que le Seigneur a fait beaucoup en moi. En tout mon être, il l'a transformé, m'a transformé par son esprit. Il a écrit son nom sur mon front. Il n'y a plus mon nom écrit dessus. Nous lui appartenons. Nous sommes un peuple qui lui appartient. Donc son nom sera sur leur front. Donc le Seigneur est exprimé, il est visible. Et c'est la caractéristique de tous les sacrificateurs qu'ils connaissent la vie et que la vie est exprimée à travers eux. Christ, notre vie, sera manifestée. Colossiens 3. Christ, notre vie, est manifestée. On peut comparer au goût. C'est similaire, un peu difficilement expliqué, mais il y a une expression quand même, quelque chose qu'on peut lire. On peut détecter le Seigneur qui nous a transformés. Le Seigneur Esprit, à force de le contempler, le refléter, nous sommes transformés et tu te rends compte, un nom apparaît sur le front, comme gravé, engravé. Le Seigneur écrit peu à peu et nous nous consacrons davantage au Seigneur. Seigneur, je veux t'appartenir encore plus. Et puis, un autre aspect important se trouve caché derrière ton front. C'est pas visible, notre pensée. Notre pensée, notre intelligence est si vite trompée, déçue. Juste une pensée. Dieu aurait-il vraiment dit un mauvais interlocuteur et les pensées s'en vont? Nos pensées ne sont pas si fortes que nous pouvons le penser. Nous sommes des personnes intelligentes, bien informées, pensant qu'on peut tout saisir avec l'intelligence, mais c'est seulement avec notre esprit que nous pouvons saisir le Seigneur. Nous pouvons saisir peu de choses avec l'intelligence. L'homme de l'âme ne saisit pas les choses de l'esprit. Nous pouvons penser avoir connu Dieu, mais c'est seulement une forme de sainteté. Le Seigneur voudrait renouveler notre intelligence. Maintenant, pour terminer, encore deux versets. Éphésiens 4, c'est le premier. Bon, important de signaler que l'expression, c'est pas seulement un résultat final, c'est quelque chose que nous saisissons dès maintenant. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Éphésiens 4, 17. Donc, Paul exhorte les Éphésiens qu'ils ne devraient plus marcher comme les nations. Comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà notre intelligence naturelle. Étrangers à la vie de Dieu. Nous ne voulons pas être étrangers à la vie de Dieu, mais nous voulons la connaître dans toutes ses formes. Et puis, il enchaîne 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le Seigneur nous renouvelle dans l'esprit de notre intelligence. Boire beaucoup du fleuve d'eau de vie, ça renouvelle notre intelligence. Le Seigneur peut travailler, œuvrer dans notre intelligence. Ne plus vivre dans la vanité, mais être renouvelé. Et Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, il nous faut être renouvelés dans l'intelligence. L'intelligence est cachée. Personne ne peut savoir ce que tu penses. Personne ne peut voir ce que moi je pense. Mais ne cache pas ton intelligence, tes pensées devant le Seigneur. Si on se dit, c'est moi qui le pense, mais je l'amène pas dans l'église, c'est pas grave. Mais ne cache pas tes pensées devant le Seigneur. Permets-lui de renouveler l'intelligence. Si tu penses qu'il y a des choses qui ne conviennent pas au Seigneur, permets-lui de renouveler ton intelligence. Être obstiné, être spécial. Moi, je vais faire ce que moi je veux. L'important, c'est que je ne porte atteinte à personne. Permets au Seigneur de renouveler ton intelligence. Le Seigneur veut faire de nous des personnes utiles pour l'édification, pour le service dans sa maison. Seigneur, donne-nous la grâce pour te permettre que nous te permettions de nous renouveler entièrement. Nous consacrons notre cœur et notre corps au Seigneur. Que ceci soit notre culte raisonnable. Amen.